les mesures administratives prolongées d'une semaine. Le couvre-feu est maintenu de minuit à 5h du matin. La vente d'alcool est toujours restreinte. Et le port, transport et l'utilisation des armes à feu restent interdits, tout comme les rassemblements dans le Grand Nouméa. Thio connaît toujours des exactions, des familles sont particulièrement ciblées. Ce week-end, c'est un cheval qui a été abattu. Une plainte doit être déposée auprès des gendarmes. L'actualité politique et Marie-Pierre Goyetch, élue hier présidente du Parti travailliste. Le congrès du parti se tenait ce week-end à Nouméa et il s'aligne désormais sur les positions de l'UC et sur le congrès contesté du FLNKS à Koumac. La France ne signera pas en l'état l'accord du Mercosur, déclaration d'Emmanuel Macron, alors que le traité sera discuté demain lors du sommet du G20 au Brésil. En attendant, les agriculteurs se mobilisent. Du football et l'équipe de France qui est à Rome. Dernier match de la phase de poule de la Ligue des Nations. Actuellement deuxième du groupe, les Bleus affrontent l'Italie qui est en tête. Coup d'envoi donné dans un quart d'heure maintenant. La météo en Nouvelle-Calédonie, près de la chaîne ainsi que sur Lifou et Ouvéa, les nuages l'emportent et des averses isolées sont attendues. Elles sont plus nombreuses d'ailleurs sur le nord-ouest. Ailleurs, le soleil est bien présent et le temps est sec. Quant aux températures maximales, elles perdent 1 à 2 degrés mais restent supérieures au normal de saison avec 28 à 30 degrés et localement jusqu'à 32 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, et avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce matin, signalons cet accident domestique qui a coûté la vie à un homme de 38 ans hier après-midi à Bouloupari, dans le secteur de la Ouameni. Il était au volant d'un engin tout-terrain, une mule sur sa propriété et son véhicule s'est retourné pour une raison indéterminée. Il est décédé des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte. Je le disais en titre, la situation reste toujours tendue sur la commune de Thio. Sur place, une famille reste régulièrement prise pour cible par des exactions. Et ce week-end, Michael Juneski, c'est un cheval qui a donc été abattu.
Oui, des individus sévissent toujours sur la commune et multiplient les méfaits. Thio reste l'une des zones les plus sensibles du territoire. Après avoir vu des émeutiers brûler et piller de nombreux magasins et ravager les outils du centre minier, des exactions continuent à l'encontre d'habitants de Thio dans la nuit de samedi à dimanche. Ils s'en sont donc pris à un cheval. L'animal a été abattu par arme à feu et ce n'est pas la première fois qu'ils s'en prennent avec violence aux chevaux, selon cet habitant qui a choisi de garder l'anonymat.
Ah ben, toujours, c'est dans la nuit, là, on tue un cheval. Ras-le-bol, il n'y a plus d'autorité. Le cheval, ben, j'ai pas, c'est la nuit, hein, ça s'est passé. J'ai préparé la ration de tous mes chevaux, et puis, ben, il n'était pas là, hein, et puis c'est tout. Après, j'ai trouvé, il était mort dans la plaine. Ben, par fusil, hein, avec une balle. Et un mois et demi, j'en ai perdu un bon aussi. Ah là là. Et puis il y en a deux qui ont été volés, il y a, oh là là, ouh, ah c'est fini. Depuis le mois de mai, hein, c'est pareil. Hein. Ils ont pris possession de la propriété, le braconnage et puis tout, ça n'arrête pas, c'est tous les jours. C'est dégueulasse hein, quand on arrive là. Des coups de feu, ça, oh là là, ouh. En culette blanc, bâtard et puis ça, ben, ça fait 5 mois, je ne vais même pas au village de Thio. C'est pas le premier qui me tue. Ouais, je prends en photo et puis voilà, un dépôt de plainte et puis voilà, mais après il n'y a pas de suite. C'est grave de vivre comme ça. Terrible.
Une plainte devrait être déposée dans les prochains jours, même si les personnes vivant sur la commune s'inquiètent encore d'une situation qui semble perdurer. Un acte qui ne restera toutefois pas sans suite auprès de l'opinion publique des Calédoniens, espèrent désormais sur place les familles de Thio, toujours victimes de ces violences et de ces exactions.
Dans l'actualité judiciaire, Michael Juneski, cela fait un peu plus de 6 mois maintenant que le drame s'est déroulé. Les investigations se poursuivent pour élucider le meurtre du gendarme mobile Nicolas Molinari. C'est ce qu'a indiqué ce week-end le procureur de la République dans un communiqué.
Le militaire de 22 ans avait été mortellement atteint à la tête par un tir d'arme à feu alors qu'il se trouvait assis dans un véhicule de service à la coulée sur la RP1 au Mont d'Or. Plusieurs coups de feu visaient également les gendarmes occupant leur véhicule, rappelle le procureur de la République Yves Dupas dans un communiqué. Dès le 30 mai 2024, le parquet a ouvert une information judiciaire. Des chefs de meurtre et tentatives de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. À ce stade, aucune interpellation n'a été réalisée, mais de très nombreuses auditions de témoins et actes de police scientifiques ont été effectués. Depuis, la famille du gendarme Molinari s'est constituée partie civile. Yves Dupas souligne dans son communiqué, je cite, « sa détermination inébranlable à aboutir à l'identification des auteurs de crimes punis de la peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité ». Fin de citation.
En bref, je rappelle que ce week-end, le couvre-feu et les autres mesures administratives ont été prolongées d'une semaine. Le Haut-Commissariat a publié sur son site internet plusieurs arrêtés pour annoncer que ces mesures seraient en vigueur jusqu'au 25 novembre inclus. Pas de changement dans le détail. Le couvre-feu est maintenu de minuit à 5 heures du matin. La vente d'alcool est toujours restreinte et le port, le transport et l'utilisation des armes à feu restent interdits, tout comme les rassemblements dans le Grand Nouméa.
Radio Rythme Bleu, 6h36.
L'actualité politique avec la fin du 12e congrès du Parti travailliste et les instances du parti ont été renouvelées. Et c'est Marie-Pierre Goyetch qui a été élue présidente hier. Un rendez-vous qui se tenait durant deux jours à la Vallée du Tir à Nouméa, Mickaël.
Les deux autres candidats s'étant désistés, à savoir André Forestre et Kaouch Kaouch, l'ancienne présidente de l'USTKE a sans surprise été désignée pour reprendre les rênes du Parti travailliste à l'âge de 68 ans et deux ans après la disparition de son fondateur, Louis Cotraud-Regueil. Il y a eu beaucoup d'émotions, mais également des positions réaffirmées lors de ce congrès. Le Parti travailliste s'aligne désormais sur la voie du bureau politique du FLNKS, bien que les décisions du Front et de l'Union calédonienne soient contestées par le PALIKA et l'UPM. Des motions particulières ont été adoptées à l'issue de ce 12e congrès du Parti travailliste. Le bureau politique du FLNKS sera le seul interlocuteur en ce qui concerne les discussions sur l'avenir institutionnel. Le Parti travailliste demande la libération des responsables de la CCAT, considérés comme prisonniers politiques, dont Christian Thé, porté comme président du FLNKS par l'UC et le RDO, et l'accession à la pleine souveraineté comme préalable à toute discussion. Mais le Parti travailliste doit avant tout se restructurer donc avec les prochaines élections provinciales dans un coin de la tête. On écoute sa nouvelle présidente, Marie-Pierre Goyetch.
Les objectifs, d'abord, en premier, on va devoir continuer de structurer le parti. Il a été structuré, bien entendu, il y a de nouvelles candidatures qui se positionnent, et notamment de la jeunesse aussi. Le parti, il y a des jeunes qui prennent des responsabilités au sein du parti. Et le parti aujourd'hui est dans le FLNKS. Donc on continuera justement de tenir compte du congrès de Pagou. Ce qui s'est passé à Koumak, c'est notre ligne de conduite. Mais également, le parti aujourd'hui veut conserver aussi sa singularité. On est au sein de la structure du BP-FLNKS. On va porter justement aussi la feuille de route de Pagou, mais aussi notre vision des choses. Aujourd'hui, on voit qu'il y a deux partis qui sont toujours dans le FLNKS, mais qui ne prennent pas aux différents travaux du FLNKS. Un moment, on se rencontrera, on se parlera, on échangera, on se retrouvera, puisque la finalité, elle est la même. C'est la pleine souveraineté.
Et dans le renouvellement des instances du Parti travailliste, Patrick Tara a été désigné premier vice-président, René Caudier deuxième vice-président, Gilles Nayette troisième vice-président. De nombreux hommages ont été rendus par les militants à Louis Cotraud-Regueil, décédé en octobre 2022 en métropole des suites d'une longue maladie.
Dans l'agenda de la semaine, on retiendra également un rendez-vous politique puisque l'UC devrait réunir son congrès à Canala le week-end prochain. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui qu'a lieu la remobilisation officielle des équipes de Prony Ressources après six mois d'arrêt de ses activités. PRNC qui s'engage dans une transformation stratégique pour pérenniser ses activités et contribuer à la transformation énergétique mondiale tout en restant un acteur clé du tissu économique calédonien. Voyons maintenant avec vous, Mickaël Juneski, les autres rendez-vous inscrits à l'agenda de la semaine, à commencer par l'actualité judiciaire.
On retiendra, oui, de la semaine qui débute la poursuite de la deuxième session d'assises de l'année. Aujourd'hui, c'est une affaire de viol sur mineur qui sera jugée en appel. Demain et après-demain, c'est une affaire de viol et violence sur conjoint qui sera jugée également en appel. Jeudi et vendredi, ce sont deux cousins qui comparaîtront pour coup mortel. Ils avaient battu à mort un membre de leur famille. C'était lors d'une fête particulièrement arrosée. Ça s'était passé sur la plage de Magenta en juin 2021.
Et cette semaine sera également marquée par de nombreuses initiatives organisées dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.
Mardi, le gouvernement organise la deuxième biennale de la construction au Théâtre de Lille, ouvert à tous. Elle portera sur deux thèmes, la reconstruction et la décarbonation. Mercredi, ce sera la journée du droit des enfants. Ce même jour, les élus du Congrès se réuniront en séance publique pour examiner le projet de loi du pays relatif au domaine public de l'eau et à la protection de la ressource en eau. Enfin, c'est dimanche prochain qu'aura lieu la Nouméenne, une grande marche contre le cancer du sein au profit de la Ligue contre le cancer.
Et enfin, un rendez-vous sur notre antenne, c'est le député européen Nicolas Bay, arrivé en Nouvelle-Calédonie samedi, qui sera notre invité du matin à 7h30. Il était déjà venu sur le territoire il y a un an, et lors de son séjour, il doit donc avoir divers entretiens pour évoquer évoquer la question institutionnelle, le dégel du corps électoral, la situation sécuritaire ou encore les conséquences économiques des émeutes. Nicolas Bay, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, c'est donc tout à l'heure à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour concerne l'actualité politique et l'attitude du FLNKS qui affirme être le seul représentant du peuple kanak et qui exige d'être partie prenante aux futures négociations. Peut-elle, selon vous, retarder la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse, bien entendu, par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Avant de refermer cette page, un petit retour sur les festivités du week-end avec tout d'abord le Calédonian Show qui a remplacé le traditionnel spectacle Son et Lumière à Fort-Terrain-Bas et plus de 600 visiteurs se sont déplacés pour l'occasion, Mickaël.
L'association Marguerite organisait cette journée d'animation qui replongeait le grand public dans l'histoire calédonienne du siècle dernier. Expositions, photos, balades en voitures anciennes et spectacles costumés ont rythmé cette journée sur un lieu historique et emblématique. Manu Cormier, membre de l'association Marguerite, se dit très satisfait de l'organisation.
Très bien, tel qu'on l'espérait, c'est-à-dire que le public était au rendez-vous. On savait que ça n'avait rien à voir avec des spectacles sans lumière traditionnels. Puis c'était le rendez-vous, le retour pour les figurants également. C'était de pouvoir se retrouver et pas briser le lien, que ça soit entre nous et avec le public. Et puis le fait de passer en journée, ça a été une nouveauté. Ceux qui étaient habitués à venir de voir Terrain-Bas de nuit ont eu un regard différent. Et ça permet également de proposer des animations avant le spectacle. C'était le cas des expositions temporaires, mais également toutes sortes de promenades. Il y a eu une exposition de véhicules anciens et les gens pouvaient faire des petits tours avec. Et ça a eu un énorme succès.
Et s'il est encore difficile de savoir si un spectacle Son et Lumière sera possible l'année prochaine à Fort-Terrain-Bas, l'association Marguerite se dit prête et enthousiaste à organiser un nouveau Calédonian Show en 2025.
Et dans le reste de l'actualité festive, l'association Droit au Vélo organisait une bourse au vélo à la place des Cocotiers samedi. Il y avait aussi des bonnes affaires au marché aux puces nautiques organisé le même jour par le CNC. Quant au Salon du Livre International Océanien, il a animé le Parc Forestier samedi et dimanche. Tout le week-end également, le Spirit Festival et ses professionnels du bien-être étaient réunis au Château Hagen. Il est 6h passé de 43 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et notamment la mobilisation des agriculteurs.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent. Ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D. Les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés.
Votre Auchan Kéferi fête ses 1 an. C'est notre anniversaire, mais c'est vous qu'on gâte. Ce lundi 18 novembre, on vous offre 10% de remise sur la poissonnerie avec la carte fidélité et la possibilité de remporter l'un de nos 2 caddies surprise d'une valeur d'environ 60 000 francs. Rendez-vous en magasin.
Ah là là, ça roule pas, hein? Normal, c'est l'heure où tout le monde va au travail, rentre à la maison, faire ses courses. Ça sert à rien de s'énerver. C'est pas ça qui va te faire arriver plus vite. Alors sois cool, pense à ta famille, tes collègues, tes amis qui sont peut-être sur la même route. Et n'oublie pas, la route ne se prend pas, elle se partage.
T'as raison, moi sur la route, c'est responsabilité, respect, humilité.
Ça roule.
Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du Haut-Commissariat.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et cela fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Emmanuel Macron a pris la parole à son arrivée en Argentine à la veille d'une mobilisation agricole contre le traité entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qui prévoit d'ouvrir davantage le marché européen aux produits d'Amérique latine. Le président de la République affirme en effet que la France ne le signera pas en l'état car il serait très mauvais pour l'agriculture du pays.
J'ai également dit de manière très sincère et très claire au président argentin le fait que la France aujourd'hui ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Et cette fermeté que nous avons, elle est simple. c'est que nous ne croyons pas au préaccord tel qu'il a été négocié. Parce qu'il ne prend pas en compte toutes les évolutions que nous avons fait nous-mêmes sur nos propres marchés. Et comme je lui ai dit, pour l'Argentine, il serait très mauvais pour sa réindustrialisation. Et pour nous, il serait très mauvais pour notre agriculture. Et donc, je ne veux pas qu'on cède de notre souveraineté alimentaire.
De son côté, le Premier ministre Michel Barnier sera à Bruxelles mercredi pour porter la voix de la France concernant ce projet de traité qui doit donc être examiné lors du sommet du G20 au Brésil demain. En attendant, eh bien, les agriculteurs en colère se mobilisent. 82 actions sont prévues dans 80 départements de métropole. Et déjà, les premiers tracteurs se trouvent à quelques kilomètres de Paris, Wilfried de Villers.
Oui, une longue file de tracteurs s'étend sur deux voies de la Nationale 118. Ils devraient rester ici cette nuit et jusqu'à demain au moins à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. C'est ce que m'ont confirmé plusieurs agriculteurs déterminés à mettre à nouveau la pression sur le gouvernement. Parmi eux, Pascal, céréalier en Seine-et-Marne. Il est lassé par des promesses sans résultat.
Absolument rien n'a changé. Des promesses, paroles et paroles, et voilà. Je suis amer. Je ne sais pas combien il faudra de suicides supplémentaires dans le milieu agricole pour qu'ils commencent à bouger, quoi. Mais ça ne va pas, quoi. Il y a un moment, on ne peut plus, quoi.
Un constat d'amertume largement partagé ce soir par les agriculteurs qui participent à ce blocage. Plus de 300 personnes sont attendues dans la soirée. Grégoire est exploitant dans le Val d'Oise.
Le message qu'on avait envoyé il y a un an, il n'a pas été ni entendu, ni mis à exécution. Donc là, on annonce de nouveau qu'on remet en route la mobilisation pour ce soir, pour demain, pour cette semaine. Et tant qu'on n'aura pas obtenu un peu plus de quelques annonces, quelque chose qui ont été faites, on restera mobilisé, on va continuer les actions. En effet, on veut des éléments tangibles, concrets.
Les agriculteurs devraient donc passer la nuit ici dans leur tracteur, entourés d'un important dispositif policier, déployé notamment pour bloquer toute tentative de monter sur Paris à une dizaine de kilomètres à peine du point de blocage.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Et à la veille de ces rassemblements, Bruno Retailleau fixe trois limites à ne pas dépasser aux agriculteurs. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte aux personnes et pas de blocage d'axes routiers, comme la métropole a pu le connaître en janvier dernier. Sinon, ce sera tolérance zéro, prévient le ministre de l'Intérieur. L'objectif est d'éviter toute forme de violence, comme en témoigne Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police.
La configuration n'est pas la même qu'en janvier. Hein. Il y a eu toute une séquence d'élections. Donc je pense que le pays est dans une autre ambiance que celle qu'il y avait en janvier. Donc via les services de renseignement, l'analyse qui a pu être donnée au ministre, c'est qu'il faut faire attention qu'un mouvement ne parte pas dans tous les sens et qu'on se retrouve avec des opérations style gilet jaune qu'on en a pu connaître il y a quelques années.
Axel Ronde, porte-parole de CFTC Police, qui assure que les agriculteurs et les forces de l'ordre travaillent en très bonne entente. Pour l'heure, les manifestations se déroulent d'ailleurs dans le calme.
Heure du rythme bleu, 6h48.
L'actualité religieuse, alors que le pape François n'ira pas à Paris pour la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame le 7 décembre prochain. Il se rendra bien en France quelques jours plus tard, puisqu'il sera en Corse le 15 décembre. La visite se prépare, selon l'évêque d'Ajaccio. Le reportage de Frédéric Michel pour Europe 1 sur l'île de Beauté.
Oui, aujourd'hui, le cardinal Bustillo, évêque d'Ajaccio, confirme que la Corse est prête à accueillir le souverain pontife, mais seul le Saint-Siège peut officialiser la venue du pape. Ce serait une question de jours. Des représentants de la garde suisse chargés des déplacements et de la protection du pape étaient encore vendredi sur l'île de Beauté pour des repérages à Ajaccio. Depuis plusieurs jours, les services de l'État planchent également sur cette visite qui, vous l'avez dit, suscite une véritable ferveur populaire.
Ben, on est content. Hein. Moi, j'ai déjà loué une chambre à Ajaccio.
C'est quelqu'un de grand. Elle mérite vraiment qu'on soit là.
Ce commerçant du centre d'Ajaccio, lui, se pose encore beaucoup de questions.
On me demande si je veux acheter des produits avec le pape. J'attends de voir un peu le parcours qu'il va faire, tout ce qui va être organisé en fait, hein, parce qu'il n'y a rien de concret et précis encore.
Alors ce qu'on sait, c'est que le pape François célébrera bien une messe, mais on ignore où dans Ajaccio. On ne connaît pas non plus le programme dans le détail, si une déambulation est par exemple envisagée. Quid aussi de la durée exacte du voyage. Le Saint-Père qui vient pour un colloque sur la piété populaire organisé le week-end des 14 et 15 décembre. Sera-t-il présent dès le 14 et est-ce qu'il dormira sur l'île ? Toutes ces interrogations font actuellement l'objet de discussions entre le Vatican, l'Élysée, les autorités locales, notamment la mairie d'Ajaccio. Plus de 100 000 personnes sont attendues pour l'événement.
Frédéric Michel pour Europe 1. Et enfin, en bref, à l'étranger, le président américain Joe Biden a donné son accord à Kiev pour frapper la Russie en profondeur avec des armes américaines. Cette décision, publiée par le New York Times, intervient deux mois avant la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump. le prochain président américain qui est soupçonné de vouloir réduire le soutien à l'Ukraine. Joe Biden, après plusieurs mois de demandes pressantes, a donné son accord à Volodymyr Zelensky pour utiliser les missiles américains ATACMS d'une portée de 300 km contre la Russie. Dans le même temps, l'Ukraine annonce qu'elle appliquera dès aujourd'hui des mesures de restriction de la consommation d'électricité à sa population après la vaste attaque russe qui a fortement endommagé ses infrastructures énergétiques. 120 missiles et 90 drones ont visé l'Ukraine hier. Il est 6h50, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Il sera notamment question de football puisque l'équipe de France joue ce matin en Italie. Il s'agit du dernier match de poule de la Ligue des Nations.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Nouveau, Lagoon vous accueille dès aujourd'hui dans sa nouvelle boutique au Hall de Magenta. Un lieu choisi pour vous simplifier la vie. Un parking spacieux, des horaires en continu la semaine et tout au même endroit. Internet, téléphonie, télévision, ainsi qu'une petite pause shopping dans la galerie après votre visite. Et en ce moment, pour toute nouvelle souscription dans notre boutique des Halles de Magenta, bénéficiez d'un mois gratuit sur votre abonnement Lagoon. Offre valable jusqu'au 30 novembre 2024, voire conditions en boutique. Urbanisme et construction durable, perspective des matériaux biosourcés, valoriser ressources et déchets du BTP, métiers d'avenir et nouvelles technologies. Rendez-vous mardi 19 novembre 2024 à 7h30 au Théâtre de Lille pour la Biennale de la Construction 2024. Entrée libre. Infos et inscriptions sur rcnc.gouv.nc, Facebook et LinkedIn, Biennale de la Construction Nouvelle-Calédonie.
Chez Sima Quincaillerie, à partir du 1er novembre, le combo pack Sima Shin Makita 18 volts LXT avec deux batteries, un chargeur et un sac de transport est vendu 144 900 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katéviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Réouverture de la Maison du Pain Calédonien, votre boulangerie du PK4 au 186 rue Jacques Yekaoué. Venez vite redécouvrir votre boulangerie et retrouver nos pains fraîchement sortis du four dès 6h du lundi au samedi. Et retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook Le 4.
Complexe Le 4 au 186 rue Jacques Yekaoué. Faites vos courses autrement.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité sportive avec du football ce matin et l'équipe de France qui fait face aujourd'hui à l'Italie en Ligue des Nations. Michel Geneschi.
Les Bleus ont l'occasion de prendre la tête de leur groupe en cas de victoire sur les Italiens, actuels leaders. Les tricolores qui sont sur le terrain de la Squadra Azzurra pour ce duel. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques minutes à peine. Alors on retrouve dans le secteur offensif des Bleus, Colomouani, Thuram, Nkunku, Rabiot, Koné, Guendouzi animent le milieu de terrain. À l'arrière, un quatuor défensif digne Saliba, Koundé et Konaté avec le brassard de capitaine devant le gardien Mike Maignan. Le score est donc toujours de 0-0 dans ce début de match.
Allez, retour maintenant sur l'exploit du week-end, celui du 15 de France. On parle évidemment de rugby qui a triomphé des All Blacks.
Les Bleus ont fait plier les Néo-Zélandais, victoire 30-29 au bout du suspense. Match de référence pour des tricolores longtemps malmenés et qui ont dû s'en remettre à de solides appuis défensifs pour inverser la vapeur et s'imposer face à des Néo-Zélandais. 3 essais inscrits en faveur des Bleus contre 2 pour les All Blacks. C'est un 3e succès de suite pour les Français face à la Nouvelle-Zélande. Pourtant, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, relativise. C'est une belle victoire, mais ce n'est pas un titre.
Cette Coupe du Monde, nous, on n'en parle plus. On est sur une dynamique complètement différente et on regarde vers le futur, vers ce qui nous attend. Gagner des matchs comme ça, c'est toujours important, fondateur, mais c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, c'est pas un titre. On n'a rien gagné. On gagne un match important contre une très belle équipe. On va pouvoir construire et s'appuyer sur ça pour la suite, mais dès demain, on va basculer sur l'Argentine qui va arriver très vite. C'est une chose d'accompli, mais pas une fin en soi.
Et les Bleus comptaient dans leur rang les Calédoniens. Peato Mauvaka, qui s'est encore illustré. Romain Taufifenua, qui a en revanche dû sortir sur protocole de commotion alors qu'il était prêt à en découdre avec les Néo-Zélandais. Yoram Moefana aussi a participé à ce succès des Bleus. Prochain rendez-vous donc de l'équipe de France samedi, ce sera face à l'Argentine.
Les sports mécaniques et l'Espagnol Jorge Martin qui a décroché le titre de champion du monde 2024 de MotoGP.
Ah, c'est l'Italien Pecco Bagnaia qui a gagné le dernier Grand Prix de la saison à Barcelone, mais le tenant du titre n'a pas réussi à rattraper son son retard sur Martin. L'Espagnol a su terminer dernière Marc Marquez à la troisième place, synonyme de sacre mondial en restant tête du classement mondial. La saison aura été palpitante et ce titre a beaucoup de saveur pour Jorge Martin.
C'est incroyable, je suis en choc. Je suis en état de choc. Il y a trop d'émotions pour le moment. J'ai pleuré, je suis content, je repleure. Et puis merci à mes concurrents aussi. Ils m'ont poussé à mes limites. Pecco a été un concurrent extraordinaire. C'était toujours très serré.
Côté français, à l'image d'une saison compliquée, Fabio Quartararo n'a terminé qu'à la 11e place, Johann Zarco 14e au classement mondial. Fabio Quartararo finit 13e et Johann Zarco 17e de ce championnat du monde 2024.
Du tennis, Mickaël, avec la finale des Masters de Turin.
Ouais, le dernier rendez-vous de la saison qui a tourné à l'avantage du numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, vainqueur de l'Américain Taylor Fritz, 6-4-6-4. Comme lors de la dernière finale de l'US Open, Sinner s'est montré impitoyable face à Fritz, l'Italien qui a donc pris sa revanche également sur ses Masters de fin de saison. En conclusion d'une saison au sommet du tennis mondial, il s'était incliné dans cette même ville de Turin l'année dernière.
Un mot de ski alpin avec Clément Noël qui a remporté la première course de la saison en Coupe du Monde. Le Français s'est imposé sur le slalom de Lévis en Finlande. C'était sa 11e victoire en carrière. Le sport en Nouvelle-Calédonie, pour terminer, il y avait du cyclisme ce week-end avec le prix Roger Larocque à Nouméa.
À Ducos, le critérium devenu traditionnel pour toutes les catégories d'âge. Un circuit qui plaît beaucoup aux coureurs. Ethan Dacremont du club VTT Passion s'est imposé chez les moins de 17 ans. On l'écoute.
Ça s'est bien passé. Au début, il y avait quelques accélérations, mais ça allait, ça roulait. Puis voilà.
Je vois que tu as été blessé récemment, c'est ça ?
Oui, je suis tombé jeudi sur piste. Au début, je ne pensais pas faire la course, mais ça allait. J'ai roulé un peu hier, puis aujourd'hui, ça allait.
Ça n'a pas trop gêné pour aller chercher cette victoire aujourd'hui ?
Non, ça allait. J'avais un peu mal au dos sur la fin, mais c'est passé. J'ai gagné au sprint.
La victoire sur la course principale est revenue à Kéril Moutry devant Fabien Dumais et Grégory Lemaître. Louise Chavitz s'est imposée chez les féminines. 54 participants étaient en lice dans toutes les courses du jour.
Allez, en bref, maintenant l'essentiel des résultats du week-end, Mickaël.
Sur le Lagon, les championnats de Calédonie de va à longue distance V3, mais aussi kayak K2 et OC2. Ça se passait au large de Lansvata, 37 équipages en lice. Chez les dames, la victoire du club des îles Soulevent. Chez les messieurs, également des îles Soulevent. En K2 messieurs, c'est l'équipage de Geoffroy qui a remporté le titre. À Bouraille, une trentaine de participants étaient de la partie pour les championnats de surf, longboard ondine, longboard open, shortboard espoir. Malheureusement, la faute aux conditions météo, les championnats de shortboard open ont été repoussés à samedi prochain. Et puis, en voile, le championnat J70 organisé par la Ligue et le CNC se disputait ce week-end. L'équipage de Rasta Rocket a terminé en tête devant JV4 et l'équipe de No Woman No Cry.
Hors du territoire maintenant du karting avec des jeunes pilotes calédoniens qui étaient à la dernière manche du championnat de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
La grande finale du New South Wales pour des graines de champions qui ont de nouveau fait le déplacement après les bons résultats obtenus face à la concurrence australienne. Raphaël Gilles chez les rookies a malheureusement dû abandonner après avoir occupé la 5e place tout au long des séries jusqu'à la finale. En junior, Luca Padovese-Robo a connu un problème mécanique lors des séries alors qu'il était 6e, contraint de s'élancer en finale de la 24e place. Il a réussi à remonter jusqu'à la 9e position. L'année prochaine, Raphaël Gilles disputera de nouveau le championnat de Nouvelle-Galles du Sud tandis que Luca Padovese-Robo sera engagé dans le championnat national d'Australie.
Et en football, la sélection calédonienne connaîtra aujourd'hui son adversaire pour les demi-finales des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde.
Les Calédoniens ont terminé les phases de groupe sur un match nul face aux Fidji, un but partout. Grâce à ce résultat, ils ont terminé premier de leur poule avec 2 victoires et ce match nul. On écoute le sélectionneur calédonien, Johan Sidaner.
Nous avons fait le match que le scénario demandait. Et les garçons ont fait un match énorme, plein d'abnégation, plein de ressources mentales. Et puis sur cette deuxième mi-temps, il me semble qu'on mérite vraiment de ce match nul et cette première place. On n'avait plus rien à perdre. On était mené et du coup on était deuxième. On leur a demandé d'aller puiser dans leurs ressources. Mais avec 2-3 ajustements au niveau du milieu de terrain, plus on savait que le banc de touche et les remplaçants pouvaient faire la différence.
Les Calédoniens tentent donc de connaître leur adversaire pour le dernier carré prévu dans 3 mois. Ils affronteront le deuxième du groupe B. Devraient éviter les Kiwis, actuels leaders. Ce lundi, en effet, Tahiti retrouvera le Vanuatu et la Nouvelle-Zélande sera opposée au Samoa. La deuxième place devrait se jouer entre Tahiti et le Vanuatu sur les terrains de Wellington. Demi-finale et finale de ces éliminatoires de la zone Océanie à la prochaine Coupe du Monde prévue au mois de mars 2025. Le vainqueur sera directement qualifié et le finaliste pourra encore tenter sa chance en barrage pour espérer jouer, pourquoi pas, la Coupe du Monde de football 2026 en Amérique du Nord.
Merci beaucoup, Mickaël Juneski. Vous le savez, le lundi, c'est sport sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Le Mac des Sports se sera retrouvé ce midi. Nous évoquerons notamment le dernier trail de l'année mis en place par Challenge Organisation. Le dernier coup de trail qui se disputera à La Foix samedi prochain. Nous recevrons Maël Guyon de Challenge Organisation pour présenter ce rendez-vous et revenir finalement sur la saison des événements de Challenge Organisation. Rendez-vous donc à midi après le journal Infomag présenté à 11h30 par Jean-François Bodin.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, alors ce matin la côte est et le nord des Loiretais conserveront un risque d'averse faible sous un ciel nuageux. Ailleurs, le soleil s'imposera malgré quelques nuages bas, ce sera en début de matinée notamment sur l'ouest. Le vent pour ce matin orienté sud-est entre 15 et 20 nœuds, localement sur l'ouest, la pointe nord proche des 20 nœuds avec des rafales jusqu'à 30 nœuds. Cet après-midi, près de la chaîne et localement sur l'ouest et la pointe nord ainsi que sur l'Ifou ou Véa, les nuages l'emporteront et des averses isolées seront attendues plus nombreuses sur le nord-ouest. Ailleurs, le soleil sera bien présent et le temps sera sec. L'Alizé toujours orienté au sud-est pour cet après-midi entre 20 et 25 nœuds et des rafales prévues donc jusqu'à 35 nœuds. Ailleurs, il se maintient entre 15 et 20 nœuds, voire autour de 20 nœuds sur le sud-est. Les températures maximales perdent 1 ou 2 degrés mais restent supérieures aux normales de saison entre 28 et 30 degrés et localement jusqu'à 32 degrés. Ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Il sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titre de l'actualité de ce lundi matin, puis la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Et ensuite, vous nous appellerez au 25 46 46 pour Vous avez un avis. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.